Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 282e numéro de Mélomanie. La 45e édition de Piano Jacobin se poursuit en cette seconde moitié du mois de septembre. Il reste encore de nombreux concerts programmés jusqu'au 30. Nous avons déjà assisté à plusieurs très belles soirées et nous allons revenir dans quelques instants sur l'une d'entre elles avec l'ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Alors que les amateurs de piano se régalent au cloître des Jacobins, d'autres événements s'apprêtent à ouvrir leurs saisons respectives, comme par exemple les Clés de Saint-Pierre, dont le premier concert a lieu le lundi 23 septembre à Toulouse, à la chapelle des Carmélites. Il va y en avoir encore 5 ensuite d'ici le 31 mars 2025. Pour vous les présenter, nous avons le plaisir de recevoir le violoncelliste Benoît Chapeau, membre de l'Orchestre National du Capitole et membre des Clés de Saint-Pierre. Il fait partie du Quatuor qui se produit lundi prochain au Carmélite. On en parle tout à l'heure en seconde partie d'émission avec lui. Dans l'immédiat, petit regard sur l'actualité musicale de la semaine passée avec Serge Chauzy. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et comme lors de notre émission précédente, ce retour arrière concerne Piano Jacobin. Mardi dernier, Serge, nous avons assisté à l'un des concerts les plus attendus de ce 45e festival, celui du grand pianiste allemand Christian Zacharias, un habitué des lieux, mais qui a annoncé qu'il allait désormais se consacrer à sa carrière de chef d'orchestre. Il n'est donc pas sûr qu'on le revoie au cloître, Serge.
Et en effet, ce qui serait très dommage, qu'il arrête le piano. Sachez qu'il a commencé à venir au festival piano aux Jacobins. Il y a fait ses débuts en 1983. Tout de même.
Donc, oui, presque au tout début du festival, puisque c'est 80 la première édition.
Oui. Donc il est venu très vite. C'est vrai qu'il dirige de plus en plus. Il a d'ailleurs dirigé l'orchestre du Capitole. Hein, notamment dans des concertos aussi, dans lesquels il jouait en soliste tout en dirigeant. C'est vraiment un grand artiste et on en a eu la preuve au cours de ce récital. Dès les premiers accents, alors cette sonorité veloutée, un raffinement des nuances incroyables. Bon, en un mot, sa musicalité fait merveille, hein, là. Et puis, il faut dire qu'il a choisi un programme vraiment très particulier, en deux parties, avec dans une première partie une sorte de confrontation à laquelle on ne s'attendait pas, entre Schubert et Haydn, pourquoi pas. Les 6 moments musicaux de Schubert, le Deutsch 780, étaient encadrés par 2 sonates de Joseph Haydn. C'était vraiment incroyable. Et donc, on a d'abord écouter la première sonate qu'il jouait de Haydn avec cette grâce habituelle, ce jeu ciselé qu'il sait si bien mener, un grand moment, et également pour la sonate qui suivait les moments musicaux. Mais alors, les 6 moments musicaux, enfin pour moi ça a été le grand moment,
oui,
la grande émotion,
oui,
au cours de tout ce concert. Ce sont quand même 6 courtes pièces qui datent de la dernière période de Schubert et on y retrouve une espèce de mélange entre tendresse, souffrance, grâce et douleur. Et ça, il l'a très bien mené, il a très bien, sans faire des oppositions brusques entre les deux, il a joué ça avec une finesse, une beauté, vraiment, pour ma part, qui m'a beaucoup ému. C'est un grand moment. Et puis, dans la seconde partie, là aussi, il a confronté essentiellement deux compositeurs que l'on ne s'attendait absolument pas à voir rapprochés, deux styles, deux époques, deux personnalités, François Couperin et Francis Poulenc, il faut le faire quand même.
Deux siècles qui séparent ces deux compositeurs,
oui, c'est incroyable.
Français tous les deux tout de même, mais
on ne
s'attendait
vraiment,
pas forcément à les voir en alternance comme ça.
Oui.
Parce qu'il a alterné les morceaux,
il a alterné
de Couperin et Poulenc.
Et il n'y avait pas d'hiatus.
Et non.
Ça paraissait presque naturel, malgré la différence de style, évidemment. Alors, on a eu droit au moissonneur, au mouvement perpétuel de Poulenc, et puis à des pièces.
Il y avait les barricades mystérieuses.
Ah oui, les barricades. Ah oui, les barricades mystérieuses. Il a terminé d'ailleurs cette confrontation par les barricades mystérieuses, bon, qui sont vraiment un morceau emblématique, hein, de cette époque.
Oui.
Donc vraiment un beau moment. Au sein de cette confrontation, il y a eu quand même une pièce de Scarlatti.
Une petite incursion vers l'Italie.
Qui est venue se mêler à ça. On sait qu'il est un expert.
Oui.
En Scarlatti, il a enregistré les sonates. Bon, voilà. C'était vraiment, là aussi, un très beau moment. Et tout s'est terminé par deux pièces de Poulenc, l'Intermezzo numéro 2 et Mélancolie, là où vraiment on trouve mélangé à la fois fantaisie et nostalgie. Il a reçu une ovation de la part du public, évidemment. Il est revenu jouer, il a donné un bis, encore une sonate de Scarlatti. Alors, l'une des 555 sonates,
je vous avoue que je
ne sais pas quel est le numéro.
Non. Donc, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui aurait été capable de le donner, d'ailleurs.
Oui. Et donc, on avait l'impression que la soirée se terminait par un beau sourire.
Et on va retrouver encore une fois Christiane Zacharias dans une interprétation. Bah justement, j'ai choisi de faire écouter Scarlatti, une interprétation d'un des morceaux, d'une des pièces qu'il a joué lors de son concert mardi dernier, la sonate en do mineur K-158. La sonate en do mineur K-158 de Scarlatti, extrait du programme que Christiane Zacharias a joué mardi dernier, le 10 septembre, au cloître des Jacobins. Pas sûr donc qu'on le revoie au piano à Toulouse, mais sait-on jamais, il adore ce festival, hein, Serge.
Absolument.
Peut-être qu'il viendra faire quelques piges dans les années à venir, on peut l'espérer.
Et peut-être qu'il reviendra diriger l'orchestre du Capitole.
Ça, c'est très probable, ça je pense. Et d'ailleurs, puisqu'on a Benoît Chapeau, qui lui a connu Christiane Zacharias comme chef, vous aimez diriger par lui, ou en tout cas vous aimez l'avoir devant vous, et vous aimez travailler avec lui?
Oui, parce que c'est une personne vraiment, vraiment habitée par la musique. Il nous fait vraiment passer énormément de choses. Bon, après... Vous savez, c'est toujours facile de critiquer, de dire « Ah ben, c'est un instrumentiste qui se
c'est
met à la direction. » Voilà. Et en fait, on pardonne beaucoup de choses quand on a un musicien de cette trempe face à nous. Et en fait, il fait passer tellement de choses. Voilà. Et moi, je veux dire, c'est des grands moments de musique. Et effectivement, j'espère qu'on aura l'occasion encore de le revoir à l'orchestre.
Il y a de fortes chances, parce qu'en plus, il est très attaché à notre ville. Donc, je pense qu'il sera exactement. Encore invité à diriger notre orchestre. Moi, je veux croire qu'on le reverra au cloître des Jacobins.
C'est
en passant,
jamais.
Il viendra bien faire un petit tour. Fin de ce retour arrière assez réduit cette semaine. Petite virgule musicale avant la partie agenda de cette émission, toujours avec Serge Chosy, mais aussi avec Benoît Chapeau, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et de Benoît Chapeau, avec qui nous allons nous plonger dans la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre tout à l'heure. Auparavant, je vais vous proposer une interview de la pianiste franco-lituanienne Mouza Roubaskité, bien connue à Toulouse et dans notre région où elle s'est souvent produite. En 2024, c'est l'année de la Lituanie en France et sa nation d'origine ne pouvait trouver meilleure ambassadrice pour promouvoir la culture et la musique lituanienne dans notre pays. La grande pianiste balte est en concert ce samedi 21 septembre à 16h30 au château de Paraza, près de Narbonne, dans le cadre du festival Ma Vigne en Musique. Et puis Mouza Roubaskité est de retour dans notre région pour deux concerts en octobre. Le dimanche 13 octobre à 17h, la salle Le Préau de Villefranche d'Astarac, c'est dans le Gers, pour le compte du festival Les Musicales des Coteaux de Gimone. Puis le mardi 15 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Notez également que le film Mouza, qui lui a été consacré, est projeté le samedi 12 octobre à 18h au cinéma L'ABC de Toulouse et le lundi 14 octobre à 20h30 au cinéma La Muse de Bressol. Voici l'entretien que m'a accordé la pianiste. Elle y revient sur les liens qui l'unissent à la France et nous présente le programme de ses concerts en Occitanie. Bonjour Mouza Roubaskité et merci d'avoir accepté cet entretien à quelques jours de votre concert au château de Paraza, près de Narbonne, où vous vous produisez dans la programmation du festival Ma Vigne en Musique ce samedi 21 septembre à 16h30. 2024, c'est l'année de la Lituanie en France et vous donnez dans le cadre de cette manifestation de nombreux concerts dans notre pays. Je rappelle que vous êtes franco-lituanienne et que vous êtes un véritable symbole de l'amitié entre la France et la Lituanie, d'une double culture que vous revendiquez. La France est votre patrie d'adoption. Il y a combien de temps que vous vivez une partie de l'année dans notre pays?
Labas, Eric. C'est le bonjour en lituanien. Labas. Ça fait 30 ans que je suis en France. En fait, après notre voix balte, on a fêté aujourd'hui cette année, 35 ans de la voix balte. Je crois que le monde entier se rappelait de cet événement où il avait la chaîne humaine de 600 km, quand 2000 personnes se tenaient par les mains pour dire non à l'occupation soviétique. Et je ose dire que ça fait trembler le mur de Berlin. Donc, je suis en France depuis ce temps-là et je suis ravie de diffuser la culture lituanienne ici et la culture française dans le monde et surtout dans mon pays, Lituanie.
Oui, vous vivez entre Paris, Genève et Vilnius. Aujourd'hui, Vilnius, vous avez fondé et vous dirigez le Vilnius Piano Festival. Est-ce que les Lituaniens sont francophiles? Est-ce qu'ils sont attachés à la culture française?
Je ne sais pas ce que ça va plaire aux Français, mais on était très attachés toujours à Napoléon. En fait, en signe de résistance contre la Russie. Et même jusqu'à maintenant, il y a les prénoms qui sont donnés aux garçons, aux Napoléon, tout simplement. Napoléonas. Et aujourd'hui, il a une grande culture francophone. Il a certaines villes qui parlent plutôt cette langue qu'anglais. Et aussi, il a les journées de la francophonie chaque année. C'est les festivités qui accueillent beaucoup de monde.
Oui, puis alors, il y a des liens anciens par le biais de la culture. Je pense notamment à des artistes comme le peintre Soutine ou l'écrivain Romain Gary, qui était originaire de Lituanie. C'était deux Juifs de Lituanie qui ont fait l'essentiel de leur carrière en France. Vous êtes donc en concert ce samedi 21 septembre à 16h30 au château de Paraza près de Narbonne. C'est pour le festival Ma Vigne en Musique. Et puis, vous allez aussi vous produire en octobre, le dimanche 13 octobre à 17h à la salle Le Préau, c'est à Villefranche d'Astarac, dans le Gers, pour le festival Les Musicales des Coteaux de Gimone. Le mardi 15 octobre, vous serez en concert à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Quel programme allez-vous jouer lors de ces concerts?
Nous avons commencé en fait la saison de la Lituanie en France le 12 septembre. Et nous avons continué cette saison jusqu'à 12 décembre. C'est 3 mois de la saison culturelle de la Lituanie en France. Donc le programme qui a été conçu pour ces journées-là est franco-lituanienne dans le sens de Europe, premièrement, puisqu'on part de la mer Baltique jusqu'à la mer Adriatique et on commence par Čiurlionis, notre peintre et compositeur romantique, symboliste dans la peinture plutôt. Je continue avec l'œuvre contemporaine de la compositrice femme lituanienne, très très connue déjà maintenant, mais l'œuvre que je vais jouer, elle a été il y a 20 ans, c'est une passaca et c'est profondeur et tristesse des événements qui sont passés dans mon pays. Et je vais terminer pour côté lituanienne avec l'œuvre de Léopold Godowski, qui, comme Roman Gary ou Soutin, étaient Litvaks, les Juifs de Lituanie. Donc ça montre une multitude de facettes de musique et de la culture de mon pays. Et ensuite, qui peut nous emmener mieux sur les chemins de l'Europe que Franz Liszt? Je vais continuer avec son cycle Vénétienne appelé.
Les années de pèlerinage, Rome et l'Italie?
C'est ça.
Liszt, le compositeur sans doute qui vous est le plus cher. Alors, je voulais revenir sur cette compositrice contemporaine lituanienne qui est née en 1975 que vous allez jouer. Comment s'appelle-t-elle?
Raminta Cherkšnyite. Aujourd'hui, comme vous voyez sa date de naissance, elle est dans sa maturité, mais garde présence très jeune. Elle est très connue maintenant, et elle a enregistré beaucoup de disques à Deutsche Grammophon de ses symphonies. Et je suis tombée totalement amoureuse de sa musique à travers ses poèmes symphoniques et ses symphonies. J'ai programmé aussi dans mon festival. Et comme c'est une pianiste d'origine, ses œuvres pour piano m'intéressaient beaucoup. J'espère beaucoup qu'elle va m'écrire un concerto un jour. Mais aujourd'hui, je travaille et je me produis avec cette Passacaille qui, comme je disais tout à l'heure, reflète le passé douloureux de mon pays, mais inspirée par le chemin de croix de Christ, était écrit plus tôt pour le Vendredi Saint.
Et donc, dans ce concert, outre cette compatriote contemporaine, compositrice contemporaine, il y a donc Turionis, étonnant personnage qui était à la fois compositeur et peintre. On va vous écouter jouer un prélude de Turionis, une pièce qui est au programme de vos concerts de Vilnius à Venise. Le prélude VL239 de Turionis, joué par Musa Rubaskite, extrait de votre programme de Vilnius à Venise. Je voulais qu'on parle rapidement d'un autre événement, un film documentaire qui vous a été consacré. Il a pour titre tout simplement Musa et il va être projeté le samedi 12 octobre à 18h au cinéma L'ABC à Toulouse, puis le lundi 14 octobre à 20h30 au cinéma La Muse de Bressol à côté de Montauban. Ce film, c'est l'histoire de votre vie de musicienne depuis vos débuts à nos jours de Vilnius à Paris en passant par Genève, parce que vous vivez également à Genève. Et puis on y parle de cette difficile période de la Russie soviétique que vous avez connue. C'est une vie faite de rêves réalisés, mais aussi de certains drames et de difficultés.
Ça reflète le destin d'une personne dans le pays qui est le mien. Comme il avait plein de péripéties, aller-retour vers les régimes d'occupation et retour à l'indépendance, il y avait beaucoup de destins dramatiques, parfois cassé, parfois, comme le mien, ne peut pas dire que c'est un destin cassé, c'est plutôt le destin heureux, mais avec beaucoup de difficultés. En fait, quand je suis arrivée en France, je me suis aperçue que plusieurs personne, même de mon entourage proche, ne savait pas grand-chose de l'histoire de mon pays, de l'occupation. Et ce qui m'a incité quand même à écrire un livre qui s'appelle « Né sous un piano ». Et c'est un livre qui aussi retrace à travers le regard d'une artiste tout ce qui s'est passé sur notre terre natale, la Lituanie. Et le film aussi fait la suite de ce livre. Le film était filmé pendant 5 ans. C'est le Covid qui a rallongé le temps de tournage. L'équipe est allée aux États-Unis, en Budapest, en Suisse, en France, en Lituanie, à Moscou, pour filmer les personnes, pour filmer mes concerts. Et c'était une aventure géniale pour moi. Et l'aventure continue parce que le film a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ça continue maintenant en Europe. Et j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer le public après. C'est ce que je fais faire après les projections de ce film en Occitanie.
C'était donc un entretien avec Mouza Roubaskité, que je remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. La grande pianiste franco-lituanienne est donc en concert dans notre région ce samedi 21 septembre à 16h30 au château de Paraza près de Narbonne pour le festival Ma Ville en Musique. Elle se produit ensuite le dimanche 13 octobre à 17h à la salle Le Préau de Villefranche d'Astarac dans le Gers pour le compte du festival Les Musicales des Coteaux de Gimone. Et puis donc le mardi 15 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Je rappelle que le film Mouza qui lui a été consacré est projeté le samedi 12 octobre à 18h au cinéma L'ABC de Toulouse et le lundi 14 octobre à 20h30 au cinéma La Muse à Bressols à côté de Montauban. Il est temps de retrouver notre invité d'honneur, le violoncelliste Benoît Chapeau, pour évoquer avec lui la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre. Elle commence le lundi 23 septembre à 19h30 à la chapelle des Carmélites à Toulouse. Et à ce propos, il s'agit d'une nouveauté cette année, puisque vous vous éloignez de votre fief de Saint-Pierre-des-Cuisines à cette occasion. C'est une première, les concerts délocalisés pour les musiciens des Clés. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y avait une sorte de saison à Tournefeuille à une époque.
Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement le dimanche matin, enfin, ce qu'ils appelaient les concerts du marché, où il y avait l'orchestre de chambre aussi qui se produisait, enfin, évidemment, pas en même temps. Et effectivement, l'association des musiciens est demandeur pour, évidemment, développer cette saison, malgré tout, parce que c'est un orchestre jeune et motivé, avec beaucoup de musiciens qui veulent aussi s'exprimer en dehors de l'orchestre, et je trouve que c'est même primordial aussi de garder ce contact avec son instrument. C'est une autre manière d'appréhender la musique aussi, et c'est vrai que c'est une grande chance d'essayer d'élargir un peu les possibilités pour trouver des lieux propices à ce genre de concert. Donc effectivement, premier concert qu'on va inaugurer donc en quatuor à cordes, le 23, donc dans moins d'une semaine maintenant, oui. Avec un gros programme.
Oui, on va en parler. Voilà. Avant de parler, alors il y aura aussi un concert le dimanche 6 octobre, un dimanche donc, attention, pas un lundi parce que normalement
oui,
c'est le lundi.
Tout à fait.
Dimanche 6 octobre voilà. À 11h à la salle Altigone de Saint-Aurin, ça sera une première pour les Clés de Saint-Pierre dans ce lieu. Il y a une autre particularité, c'est que habituellement vous commenciez plutôt le début octobre, là vous commencez
très tôt.
Le 23 septembre, mais vous allez finir beaucoup plus tôt,
oui.
Vous finissez le 31 mars,
oui.
D'habitude ça mordait plutôt sur le mois de mai, il y a des raisons à ça?
Bah, vous savez, c'est selon la disponibilité, je veux dire, de l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, qui effectivement qui appartient aussi au conservatoire à rayonnement régional, et donc on se plie un petit peu aux disponibilités et de la salle, et c'est vrai qu'on ne peut pas tabler sur des dates fixes un an en amont, enfin chaque année en se disant on va fidéliser un certain nombre de dates, ça va tomber sur telle période. Donc finalement, c'est très compliqué aussi pour l'association. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver aussi d'autres lieux que Saint-Pierre-des-Cuisines qui pourraient effectivement recevoir nos concerts.
Puis le choix du premier concert dans la chapelle des Carmélites, bon, c'est idéal, c'est une petite merveille cette chapelle.
Voilà. On y vient à ce concert, la chapelle des Carmélites. Alors je rappelle que les Clés de Saint-Pierre, donc... C'est une association qui réunit des musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse qui se produisent en formation de chambre et que ce sont eux qui proposent les programmes. Vous votez ensuite entre vous pour choisir la programmation de l'année suivante.
Je rends un mini-hommage à François Laurent qui était peu le précurseur, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre qui nous a malheureusement quittés au cours de l'année dernière. On lui doit énormément et on lui doit notamment, je veux dire, cette saison extraordinaire pour les musiciens de l'Orchestre du Capitole.
premier concert, donc, ce lundi 23 septembre à 19h30. Là aussi, l'horaire est inhabituel. Oui. D'habitude, c'est 20h. Là, c'est 19h30 que les gens le notent bien. Oui. Ne venez pas à 20h parce que ce sera commencé. Oui. Donc, c'est à 19h30 à la Chapelle des Carmélites et vous y participez, Benoît Chapeau.
Tout à fait.
Quels sont les musiciens qui vont jouer avec vous lors de cette soirée et pour y interpréter quel programme?
Alors, on est en quatuor à cordes. On se retrouve. Alors, moi, j'ai l'habitude de jouer avec Alexandre Dalbigo, qui est violoniste. Alexandre est très ami avec Vitali Rasakov, qui est également, d'ailleurs, co-soliste à l'orchestre.
Comment c'est un ancien orchestre qui est,
maintenant, oui, voilà, on est plus sur... on reste frais, malgré tout.
Le russe de l'orchestre, ce n'était pas que Tougan Sokiev, il y a aussi Vitali Rasakov.
Et donc, Vitali, et puis Laura Enspinger, qui est un pilier des clés, qui s'investit énormément, parce que cette association, elle vit grâce aux musiciens de l'orchestre qui passent énormément de temps à préparer ses concerts, tout le côté administratif, publicité, information.
Vous vous occupez de tout, hein.
C'est un travail vraiment, vraiment impressionnant. Florence Fourcassier, vous aurez pu aussi vous en parler, oui. Elle qui s'est tant investie aussi. Edwige, je peux pas tous les nommer, mais je les remercie sincèrement.
Oui, Serge.
Je voudrais vraiment souligner le fait que moi, je suis convaincu que la pratique de la musique de chambre, ça sert dans la musique symphonique.
Bien sûr.
Et réciproquement.
En fait, la musique, c'est de l'écoute.
Et oui.
Quand on joue ensemble, on doit s'écouter.
Exactement.
Et beaucoup de chefs d'orchestre aussi dire mais c'est de la musique de chambre. C'est savoir ce qui se passe chez les autres. C'est pas uniquement faire sa partie à l'orchestre, c'est savoir ce qui se passe derrière vous. C'est aussi les vents, l'harmonie, les percussions. C'est vraiment cet échange-là. Et ce qui fait la force d'un orchestre, c'est l'écoute aussi de ses musiciens.
Et puis ça responsabilise, exactement, évidemment, le musicien. Ah, oui. Quand vous jouez à 3 ou à 4,
tout à fait.
Là, chacun doit défendre
sa
partie.
Oui, et je pense que c'est important parce qu'il y a cette envie. Vous êtes tributaire quelque part d'un chef d'orchestre qui vous impose quand même une vision de la musique, sur les œuvres, qui sont inscrites au programme. Là, c'est les musiciens qui choisissent leur programme et c'est eux qui vont proposer leur interprétation.
Oui.
Et ça, c'est un travail de liberté et qui est, à mon avis, fondamental pour un musicien. Et encore plus pour un musicien d'orchestre qui, on ne lui donne pas forcément cette liberté. À chaque fois qu'on commence les répétitions, on se dit mais... dans quelle épreuve on s'est lancé,
parce
que le programme est impressionnant.
Ah oui.
Et là, vous vous en prenez
à celui qui vous a entraîné dans cette histoire, évidemment.
Ben, bien sûr. En fait, je crois qu'on est...
Il y a des amis de 30 ans qui se sont fâchés au club de cette guerre. Non, c'est blague.
Et en fait, c'est une superbe aventure, parce que chaque musicien partage sa vision, de tel passage, chacun a sa sensibilité et chacun prend la parole en répétition. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas de personne qui va prendre en charge la répétition et qui va imposer.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer le 23 septembre ?
Le thème, c'était la grosse pièce. La grosse pièce, ça reste la grande fugue, de Beethoven, qui était un mouvement, du quatuor opus 107, je crois. 130, oui.
Le quatuor numéro 13. Hein.
Voilà, et en fait, à la première audition, en tout cas, à la création, ça a été Beethoven est sorti furieux parce que certains de ses mouvements étaient bissés, et pas celui-là. Et pour lui, c'était le chef-d'œuvre absolu, en tout cas, le chef-d'œuvre absolu de ce quatuor. L'éditeur lui a même proposé, il a eu des pressions pour l'enlever, de ce quatuor, de recomposer un final pour ce quatuor. Donc, si bien que cette grande fugue, alors, on peut effectivement la remettre dans le quatuor d'origine et on peut la jouer de manière séparée, seule. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va la jouer seule.
Deux autres œuvres pour l'encadrer, si on peut dire. Oui. Donc, il y a un quatuor de Schubert.
Le quartet de Zatz.
Le 12e, le fameux quartet de Zatz.
Un mouvement, ça.
Voilà, exactement. C'est comme la symphonie inachevée, et d'ailleurs qui s'y rapproche quelque part sur un espèce d'ostinato de départ en double croche.
Oui. Non, mais Schubert est un spécialiste de l'inachèvement. Hein. Il n'y a pas que sa symphonie qui
ouais.
n'a pas
achevé. Oui, sa vie également a été
écoulée. Sa vie aussi, malheureusement, a été inachevée.
Alors, pour ma part, moi, j'aime beaucoup ce que Jean et Brigitte Massin, deux grands musicologues, ont écrit à propos de ce quartet de Zatz. Ils ont écrit « Ce tragique est présent partout, dans lutte mineure initiale et dans le murmure angoissé des premières mesures. Oui. »
C'est complètement ça. En fait, il se passe tellement de choses dans ce mouvement. Je trouve qu'il y a une logique sur ce programme. Alors oui, je le défends, bec et ongle même. Voilà, cette grande fugue se suffit et ce quartet Zatz aussi. En fait, il se passe énormément de choses dans des pièces qui sont relativement courtes, mais qui paraissent très dense et longue à la fois. C'est très curieux.
C'est ça.
Et puis, troisième quatuor à cordes au programme d'un contemporain de Schubert, Mendelssohn, le troisième quatuor.
Exactement. Opus 44. Et là aussi, on s'est dit, oh, ben, on va se reposer un petit peu. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est aussi un monument et très délicat. C'est musique, tout ça, très délicat.
Pour illustrer ce programme du concert du 23 septembre, il y avait un peu l'embarras du choix. Moi, j'ai choisi un extrait du Quatuor numéro 12, Quartet Satz de Schubert. Il s'agit d'une version du Quatuor Modigliani. Extrait du Quatuor numéro 12, Quartet Satz de Schubert, dans une version du Quatuor Modigliani. C'est une des trois œuvres au programme de votre concert de lundi prochain à 20h à la Chapelle des Carmélites. Le suivant est donc programmé le dimanche 6 octobre à 11h à la salle Altigone de Saint-Orens-de-Gameville. Un lieu, un jour et un horaire inhabituel pour ce concert, donné par une formation tout aussi inhabituelle, un trio corps, tuba et vibraphone, ou corps, tuba et piano. Il y aura plusieurs variantes. Expliquez-nous un peu ça, parce que ce n'est pas commun, cette affaire.
Mais en fait, c'est venu, je pense, de l'idée de Sylvain Picard, qui est vraiment une personne éclectique, je dirais un pilier de l'orchestre maintenant aussi.
Tubiste,
et,
hein, donc,
voilà, tubiste solo de l'orchestre. D'une gentillesse sans nom, et puis est très curieux de plein de choses. Et donc le programme a été vraiment concocté par ses soins, évidemment avec François et Jean-Sébastien.
Ouais, les deux autres, c'est François Lugue au corps, et puis au vibraphone et au piano, parce qu'il peut jouer les deux. Du moment qu'il y a un clavier, il se débrouille. Jean-Sébastien Borsarello.
Voilà, et sur les pièces, c'est quand même des pièces de compositeurs qui ne sont pas évidemment les plus connues non plus. Je vous avouerai même pour moi.
On découvrira, là. Hein.
Barbara York, Louise Babin, Léoné Sinigaglia, Ralph Vaughan Williams. Alors, Vaughan Williams.
C'est le plus connu de la bande.
Voilà, c'est le plus connu de la bande, comme dit Eric. Et je pense en plus qu'on sert, qu'on peut aller voir en famille. Parce que je pense qu'il aura le soin, je veux dire, de présenter toutes ses pièces avec un engouement non dissimulé.
Un enthousiasme.
Voilà. Et donc moi, j'encourage vraiment. Il n'y a pas de fossé entre les cordes et les vents.
C'est
faux.
Allez-y. Il y a Couffé de Saint-Pierre qu'on voit des choses comme
Absolument.
Ça.
Absolument. Donc, c'est une grande nouveauté et puis des découvertes à faire. Hein, de compositeurs dont on n'a jamais entendu parler, pratiquement. À part Vaughan Williams.
Oui, alors le trio a pris pour nom trio Lupilo. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a François Lugue, donc voilà. Lupilo, Sylvain Picard. Ouais. Et Borsarello, ils ont pris la fin, donc ça fait le trio, avec donc ce programme Barbara York, qui est une compositrice américaine contemporaine, qui est encore bien de ce monde, Louis Babin, Léoné Sinigaglia, Ralph Vaughan Williams, vous l'avez dit, Roger Steptoe, ça doit être aussi un américain, Et puis, il y a une certaine Elisabeth Raoul. Je ne sais pas si c'est une américaine, c'est probable d'origine mexicaine, ben, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que, bon, on va découvrir, c'est tout un tas de compositeurs ce jour-là. Petit extrait de ce programme avec le tango de la suite pour cor, tuba et piano, Dancing with Myself, de la compositrice canadienne. Elle n'est pas américaine, elle est canadienne, Barbara York. Le tango de la suite pour cor, tuba et piano, Dancing with Myself de Barbara York, qui est donc au programme du concert du dimanche 6 octobre à 11h à la salle Altigone de Saint-Orens de Gameville. Pour le troisième rendez-vous de la saison, lundi 18 novembre à 20h, vous rentrez au Bercail à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le programme Lumière romantique. Là, il va y avoir un quatuor à cordes et un quintet avec clarinette. Original aussi.
Oui, original, et si vous regardez, je veux dire, même l'intégralité de la saison, je trouve qu'il y a, le quatuor à cordes est à l'honneur.
C'est vrai.
Il y a des pièces, finalement, qui sont relativement connues, mais des belles pièces du répertoire. Pour ceux qui aiment, effectivement, la musique de chambre, on va dire, je dirais, presque académique. Mais en fait, c'est jamais académique, la musique, c'est vivant. Et toutes ces personnes-là, assez souvent, c'est la chance des Clés de Saint-Pierre, c'est que les gens, les groupes se forment aussi pour l'occasion, par affinité, par sensibilité, et donnent justement des groupes
tels que celui-là. C'est qui le groupe ? Qui sont les musiciens ?
Donc, on va retrouver Victor Guimi à la clarinette, personne absolument délicieuse. Jaewon Kim, qui est la nouvelle super soliste. Qui se partage la première chaise avec Christy Giesi. Haruka Katayama, charmante violoniste, très très gentille.
Vous avez de la chance, vous fréquentez que des gens gentils et charmants.
Je regarde et finalement, je me dis,
c'est normal, tous super. C'est par affinité. Donc, Bruno Dubarry,
l'orchestre. Alors là, Bruno, Bruno
et des clés. Et des clés.
Bruno est alto solo, depuis un certain nombre d'années. Et puis Aurore Dassès.
La belge de l'orchestre.
Ma collègue, la princesse Aurore. Voilà.
Et donc, concert, donc, un quatuor à cordes de Mozart, un des nombreux, le 15e, celui en ré mineur, le K421.
Ouais. Et le célèbre quintet pour clarinette, les cordes à cordes.
Opus 115 de Brahms. Ça, c'est une merveille, ça.
Oui, qui reste pareil. Voilà, on se retrouve encore sur des monuments de la musique de chambre.
Eh bien, on va l'écouter, ce merveilleux quintet pour clarinette et cordes opus 115 de Johannes Brahms. C'est le premier mouvement Allegro. C'était le premier mouvement Allegro du quintet pour clarinette et cordes opus 115 de Johannes Brahms, l'une des deux pièces au programme du concert du lundi 18 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. La suite nous amène en 2025, le lundi 6 janvier très précisément, et toujours à 20h et toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, pour le concert éclat cuivré du Baccaro Quartet, formé de deux trompettes et deux trombones. Alors voilà encore une formation qu'on voit très 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 rarement, pour pas dire jamais, qui sont ces quatre musiciens qui ne manquent pas de souffle.
Eh bien écoutez, c'est, voilà, on retrouve Hugo qui est trompette solo, comme René Gilles, Thomas Pesquet, voilà, Thomas Pesquet qui est son collègue à la deuxième trompette, enfin après je ne vais pas vous dire en détail entre premier et deuxième.
Oui, cordon. Non, enfin, ça bon, c'est bref, pour les spécialistes.
Voilà, c'est pour les spécialistes, je risque de me faire taper sur les doigts. Et Louise, qui est la nouvelle...
Louise Aulnois.
Voilà. Qui est la nouvelle trombone solo. Ah, oui. Et puis Fabien Dornic,
encore un pilier de l'orchestre.
Encore un pilier aussi, trombone basse. Et puis voilà, enfin moi, quatre personnes que j'aime beaucoup encore.
Et vous voyez, Serge, qu'il y a des femmes trombonistes, ce n'est pas
absolument
forcément l'instrument.
Et trompettistes.
Oui, facilement entre les mains.
C'est et ça, voilà, on vient de sortir, je dirais, à l'orchestre du concours de compositrice. Et oui, non, je trouve que là, à l'orchestre du Capitole, s'illustre aussi par sa parité.
Voilà.
Je crois qu'on
même
peut pas
la contrebasse, vous avez.
Ben bien sûr, ça y est, et oui, femme. On a une contrebassiste.
Alors qu'avant, on voyait que des hommes. Voilà. Bon, il est vrai que la taille de l'instrument fait que...
Et puis,
il y a le petit homme aussi. Hein.
C'est vrai. C'est vrai.
En tout cas, beau programme avec effectivement des transcriptions.
Transcription de Mozart, le divertimento numéro 4 en do majeur, Casnozet, Tchaïkovski, il y a un arrangement. Et puis alors, des compositeurs que personnellement je ne connais pas, mais que tous les spécialistes des cuivres doivent connaître. Il y a Edmund Thomas Heinz, une toccata, Wilhelm Ramso, quartet numéro 4, Victor Ewald, symphonie pour cuivre numéro 1, opus 5, et le final, Piazzolla tout de même, Retrato de Alfredo Gobbi, et puis nous aurons Araldo de Kulmanes, donc Carlo Pasodoblé. Il va encore y avoir beaucoup de découvertes, mais même pour les arrangements, parce que les œuvres en question, je suis curieux de voir ce que ça donne, avec deux trompettes et deux tubas.
Allez-y, parce que c'est un régal.
Pour vous donner une idée de ce programme constitué d'œuvres qu'on a rarement l'occasion d'entendre en concert, mais en voici une, la toccata d'Edmund Thomas Heinz. La toccata d'Edmund Thomas Heinz, l'une des pièces au programme du concert éclat cuivré du lundi 6 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Avant-dernier concert de la saison, lundi 3 février, toujours à 20h et toujours au même endroit. On y retrouve un quatuor à cordes, encore une fois, pour un programme intitulé « Quatuors en contraste ». Les quatre musiciens, je vais les donner. Donc, il y aura Edwige Farinck et Jean-Baptiste Jourdain au violon, Samuel Joly à l'alto et Fanny Spangaro au violoncelle. Spangaro, pas Spangaro, hein. Pas de confusion. Le programme, effectivement, c'est quatuors en contraste, hein, Benoît Chapeau.
Bah oui, donc Zammersatz de Webern. Webern, jeune étudiant encore dans la classe de Schönberg, école de Vienne.
Deuxième école de Vienne.
Voilà, exactement, deuxième école de Vienne. Moi, je trouve important, je veux dire, d'inclure des pièces comme ça qui ne sont pas jouées tous les jours.
Elle est magnifique, en plus, cette
pièce. Voilà, et donc je trouve que voilà, c'est génial qu'ils aient choisi, en tout cas déjà, cette première pièce. Et ils vont enchaîner avec le premier de Bartok. Alors ça aussi, par connaissance et en ayant joué des quatuors de Bartok, c'est un beau défi aussi qui se lance.
Oui, tout à fait. Hein,
parce que ça reste de la musique complexe. Bartok est un compositeur, pour moi, à mon avis, qui n'est pas suffisamment joué en France.
Oui, on le dit souvent. Bartok et quand même,
quelle musique, quel génie. Et là, ben voilà. Et puis, pour finir avec un des derniers quatuors de Beethoven, je trouve que là, on est sur des choses quand même parlantes. Le contraste,
il va être extrêmement
flagrant.
Intéressant, ce contraste, Serge.
Oui.
Alors, au programme de ces quatuors en contraste, il y a notamment la pièce que vous avez citée en premier, celle d'Anton Webern, Langsamer Satz, et je vous propose de l'écouter maintenant. Langsamer Satz, très beau quatuor à cordes d'un encore très jeune Anton Webern à l'époque. Elle est donc au programme du concert du lundi 3 février à Saint-Pierre-des-Cuisines et donc dernier concert de la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre, lundi 31 mars, encore à 20h et encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, saison qui se termine avec deux quintettes pour pianos et cordes, le programme ayant pour titre Parfums d'Europe centrale. Les cinq musiciens, bien les voici. Donc nous aurons Chrissy Jessy, votre co-super soliste de l'orchestre au violon, avec Éléonore Epp. Nous aurons le couple Juliette Gilles à l'alto, Pierre Gilles au violoncelle. Et puis Thibaut Epp, qui doit être le frère
d'Éléonore,
qui sera au piano. Deux œuvres, donc. Alors, il y a un compositeur très connu qui s'appelle Dvorak. Cela dit, son quintette pour piano et cordes numéro 2, il ne doit pas être joué si souvent que ça non plus. Et puis, nous aurons le Hongrois Ernst von Donaghy, qui, lui, a aussi composé au moins plusieurs quintettes pour piano et cordes, je ne sais pas. C'est le numéro 1, en tout cas.
Il y a une sérénade pour trio à cordes qui est absolument magnifique. C'est de la très belle musique. En tout cas, il y a une logique, effectivement, de la musique de l'Est de cette époque. Et ça s'articule très, très bien, là.
Ah, c'est un programme superbe. Hein.
Vraiment, là, de finir la saison. Avec,
mais toute la saison, c'est vraiment des programmes originaux, des formations rares qu'on n'entend jamais. Et puis, donc, ces deux quintettes pour piano et cordes. Un programme qui n'est fait que de quintettes pour piano et cordes, on ne voit jamais ça non plus. Hein.
Et puis, des super musiciens. Et,
alors, vous me notez la bouche, je n'osais pas le dire. On va l'écouter, ce quintette pour piano et cordes numéro 2 plus 81 en La majeure d'Anton Dvorak. Il y a un mouvement qui est particulièrement célèbre dans cette œuvre, le mouvement Andante con moto, le deuxième, Dumka. On l'écoute dans une version, encore, du Quatuor Modigliani avec le pianiste Frank Braley. Thank you. le deuxième mouvement Dumka Andante con moto du quintet pour piano et cordes numéro 2, opus 81 en la majeure d'Anton Dvorak, joué ici par le quatuor Modigliani et le pianiste Franck Bralet. C'est une des œuvres au programme du dernier concert de la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre, donné le lundi 31 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le premier a donc lieu ce lundi 23 septembre à 19h30 à la chapelle des Carmélites à Toulouse. Le programme est intitulé La Grande Fugue et il est donné par un quatuor à cordes, dont fait partie notre invité Benoît Chapeau. Tout le détail de la saison des clés et la billetterie sont en ligne sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Notez aussi que la 45e édition du festival Piano Jacobin est toujours en cours et qu'elle se poursuit jusqu'au 30 septembre à Toulouse. Pour vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne, il faut vous connecter à l'adresse www.pianojacobin.com. Et je rappelle pour finir que la pianiste franco-lituanienne Mouza Roubaskité est en concert dans notre région ce samedi 21 septembre à 16h30 au château de Paraza près de Narbonne. C'est dans le cadre du festival Ma Vigne en Musique, appelé aussi le Narbonne Classic Festival. La billetterie est en ligne sur le site www.narbonne-classique-festival.fr. Merci encore une fois à Serge Chosy de m'avoir assisté dans l'animation de cette émission. Et merci bien sûr à Benoît Chapeau d'être passé nous voir pour être l'invité d'honneur de ce numéro. Je remercie également Christophe Aubry qui l'a réalisé. Le podcast est téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à tous nos auditeurs, aux fidèles comme aux nouveaux, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.